passe sur un pont en pierre qu'on appelle un pont dormant, qui au Moyen-Âge n'existait pas, parce qu'il y avait ici un pont en bois, certainement avec un pont-levis. Et ensuite, donc, vous avez 6 mètres d'épaisseur de mur. Dans ces 6 mètres...
On fait les 6 mètres, donc on peut faire 6 pas, on arrive au bout du mur.
À peu près. Après, à l'intérieur des 6 mètres d'épaisseur de mur, c'est vide.
Donc là, je suis au milieu de l'espace qui servait de prison, au milieu de la tour, sous la voûte. C'est très étriqué, c'est très sombre. On peut y apercevoir quelques trous de lumière, mais c'est à peine perceptible par l'œil nu. Donc on peut imaginer les conditions des prisonnières et la foi qu'il a fallu pour Marie Durand pour résister face à l'oppression.
On attribue à Marie Durand, même si on n'est pas réellement sûr que ce soit elle, une gravure qui est gravée sur la margelle de l'oculus de la tour de Constance, où il y a écrit le mot résister, qui est en patois du Vivarais, qui signifie résister, qu'on attribue à elle sans certitude, mais qui pour le coup résume parfaitement bien le combat de ces protestants, puisqu'ils ont résisté, par exemple comme pour Marie Durand, pendant plus de 38 ans aux persécutions faites contre ces protestants. Marie Durand, elle vient d'une région du Vivarais, dans le Boucher de Prun. Et elle a été emprisonnée parce qu'en fait son frère était un pasteur, un prédicant, qui prêchait directement dans le désert, dans le désert Sévenol. Et il était très recherché. Et en fait, on a emprisonné Marie un peu en guise de rançon, pensant que son frère allait se rendre. Finalement, il a été pendu quelques années après le début de l'incarcération de Marie. Il a été pendu à Montpellier. Et on a dit à Marie, tu peux sortir, mais que si tu abjures et que si tu changes de religion. Chose qu'elle n'a pas décidé de faire parce qu'elle est restée pendant presque 38 ans dans cette tour, enfermée, malgré les conditions de vie assez terribles. Si on parle de Marie Durand aujourd'hui, c'est parce que c'était l'une des seules femmes de son groupe à savoir lire et écrire. Par exemple, elle écrit le nom, le prénom de ses compagnes, celles qui arrivent, celles qui partent, et elle écrit de quelle région elles viennent, quel âge elles ont, etc. Donc on a un vrai registre de Marie Durand. Et aussi, elle écrit des lettres donc à sa nièce qui est réfugiée en Suisse, où elle explique ses conditions de vie. On pense à peu près à 200 femmes qui sont passées par Aigues-Mortes. Dans des salles comme la salle basse ou la salle haute, on pouvait peut-être aller jusqu'à 25-30 femmes en même temps. On sait que ces femmes dormaient directement sur le sol, donc sur de la paillasse. On parle de la malnutrition parce qu'elles sont nourries qu'au pain dur, qu'au pain rassis. Et puis si on pense à la luminosité, les 6 mètres d'épaisseur de mur font qu'il y a très très peu de soleil à l'intérieur de cette salle. Et déjà au bout de quelques mois, les yeux commencent à s'habituer à l'obscurité et on a eu beaucoup de cas de cécité. Et à la suite de ça, énormément de cas de folie parce qu'être emprisonné dans une tour comme ça et en plus perdre la vue, pour le coup, ça crée beaucoup de... Enfin, on perdait la raison. Toutes ces femmes avaient la possibilité d'être libérées, elles pouvaient sortir, mais il fallait qu'elles changent de religion, qu'elles abjurent. L'abjuration, c'était quand même assez dur, c'était des séries d'examens et ça pouvait durer des heures à des années pour certaines femmes et c'était dans des conditions quand même assez dures. C'est pour ça que sur 200 femmes qui ont été emprisonnées à Aigues-Mortes, on compte seulement une dizaine d'abjurations aujourd'hui, ce qui nous prouve quand même leur courage et leur force. C'est que la plupart d'entre elles ont préféré vivre ici quitte à en mourir parce qu'on le sait, des femmes ont perdu la vie dans ces tours par rapport aux conditions de vie. Mais on a eu aussi peut-être quelques naissances. Il y a une petite fille qui est arrivée alors qu'elle n'avait que quelques mois et qui va rester toute son enfance jusqu'à l'âge de ses 17 ans dans la tour. Donc vraiment, on avait tous les niveaux d'âge possibles et il y a des personnes qui sont arrivées au-delà de 80 ans. Donc c'est ça aussi qui en fait un témoignage assez fort, hein, toutes ces lettres de Marie. Ce combat-là s'arrête finalement il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça va s'arrêter quelques années avant la Révolution française, avec l'édit de tolérance qui va autoriser les protestants français à avoir un état civil, comme une carte d'identité, les actes de baptême, de naissance, de décès, etc. Et c'est seulement après la Révolution française qu'on va réussir à avoir du coup la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.